Ain't it funny? So funny how time slips on away. She's doing fine. And I heard you told her, yeah, that you were gonna love her until the end of time. Now that's the same thing that you told me. You know it seems like the other day. Ain't it funny? So funny how time slips away. I guess I'll see you around. I don't know when though. Never know when I'll be back in town.
Pas du tout folle, bien moins en tout cas que tout le monde le croyait. Elle simulait, elle était guérie depuis très longtemps, elle s'était guérie elle-même par le procédé qui consiste à cesser de combattre le mal et entreprendre tout au contraire de le cultiver, de s'en servir, de s'en émerveiller, d'en faire une raison de vivre passionnante. C'est Jean Dubuffet qui parle ainsi d'Aloïs Korba, artiste peintre né à Lausanne en 1886, qui a suivi ses études jusqu'au baccalauréat, puis qui devient institutrice. Passionnée d'opéra, elle aurait souhaité devenir cantatrice. En 1911, elle part pour l'Allemagne. L'année suivante, elle est à Potsdam, gouvernante des enfants de l'empereur, de l'aumônier de Sa Majesté Guillaume II, empereur. Elle rencontre l'empereur et s'éprend violemment de lui. Cet amour qu'elle sait impossible l'accompagnera toujours. En 1914, c'est la guerre, la conflagration universelle qui l'oblige à rentrer à Lausanne. Renvoyée en territoire neutre, la jeune fille sage, cloîtrée dans sa chambre, implore la paix pour le monde.
Je cherche en vain à établir la paix. La paix, pour l'enfanter, il faut se sacrifier avec amour. Bien sûr, une paix durable ne peut être obtenue sans l'anéantissement des temples d'or, bien sordide et vermeil piédestal de l'égoïsme humain criminel. Par conséquent, devant l'écroulement des grandeurs terrestres, nous sommes obligés, pour être heureux, de revenir à une vie chrétienne, étant soumis, en athée aussi, aux lois divines, immuables, d'après lesquelles on récolte indubitablement ce qu'on sème. Mais bientôt plus de fait, Guillaume II parle de paix. Il faut faire quelque chose. Nous devons enrayer une
On le sait, l'époque soigne ses illuminés à l'asile. Sur la demande de sa famille, Aloïse est internée en 1918 à l'hôpital de Séry, à Lausanne.
Vous aimeriez la misère en lambeaux, vous seriez inévitablement des flambeaux. On l'a mise en bière, enterrée à l'hôpital. Un enterrement sauvage.
Malade dite incurable, elle est transférée à la Rosière de Gimel, où elle restera toute sa vie, 46 ans. Aloïse dessine, elle écrit en cachette. Elle ramasse du papier dans les ordures pour griffonner au cabinet. Plus tard, le professeur Hans Steck et le docteur Jacqueline Porret-Forel s'intéressent à ses dessins et lui procurent du matériel. Le matin, Aloïse repasse le linge de la Rosière. L'après-midi, elle dessine, elle écrit. À travers ses écrits, où la rime enfouie chante de grands airs, ses dessins en couleurs vives, Aloïse fait savoir au monde ce qu'était son monde, son théâtre.
Je cherche un coin d'azur pour cacher ma splendeur. Ce soir, le vent des mers souffle d'Asie sur mes plumées déchiquetées. Quelle douleur d'agonie elle ressent, cette unique, immense, unique.
En 1963, les œuvres d'Aloïse sont exposées au Palais de Rumine, musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne. Aloïse s'éteint en 1964, elle a 78 ans. Ses œuvres ont été recueillies par Jean Dubuffet dans la collection d'art brut à Lausanne. Entendu dans les courts extraits, quelqu'un a voulu faire vivre le théâtre d'Aloïse dans un vrai théâtre. Ce quelqu'un, c'est Aurore Prieto, comédienne et auteure de théâtre. À partir des écrits d'Aloïse, lettres ou poèmes recueillis par Michel Thévaud dans Écrits bruts et un ouvrage réalisé par Jacqueline Porret-Forel, Aloïse, Aurore Prieto a écrit une adaptation de La vie d'Aloïse. Il lui a prêté avec une extrême sensibilité sa voix, son corps. Passant du mutisme de l'enfermement à l'ivresse des mots, de la fragilité à la force violente, de la gaieté à la douleur profonde, Aurore Prieto donne à Aloïse sa place dans le monde. Je l'ai rencontrée hier soir après la première au Théâtre de Saint-Gervais et Aurore Prieto, comme nous, a découvert, ou comme nous, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, a découvert Aloïse au Musée d'art brut à Lausanne. Mais connaître Aloïse comme Aurore Prieto la connaît n'est pas donné à n'importe quel visiteur qui admire ses dessins à Lausanne. Alors je lui ai demandé quelle démarche elle avait entreprise pour connaître Aloïse au-delà de ses dessins.
Eh bien, je suis allée au Musée d'art brut et j'ai vu ça comme tout le monde parce que je suis allée un petit peu, pas par hasard, mais on m'avait dit surtout vas-y. Et donc j'y suis allée et je suis partie mais sans rien, enfin en étant comme ça émue, disons, avec une grande émotion. Et j'avais emporté donc les écrits bruts et puis le livre de Jacqueline Bruforel à Louise. Et j'ai gardé ça, mais vraiment en souvenir. D'abord, ça s'est enfoui, on peut dire. Et puis, 2 ans après, je m'en suis souvenue et c'est vraiment quelque chose qui est revenu à ma mémoire, comme ça. Et je suis retournée voir reprendre ce livre que j'avais prêté et je l'ai retrouvé. Et puis reprendre le catalogue de l'art brut et tout. Et là, j'ai vraiment eu envie de fouiller l'histoire de cette femme, disons, d'en savoir plus, quoi, sur cette impression que j'avais tout à coup, cette espèce d'émotion, et puis une grosse émotion, puis je savais pas très bien dire où elle se situait. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de fouiller, mais tu sais, comme on essaye de chercher un trésor quand on est enfant, ou bien même quand on est grand, hein, c'est vrai, c'est comme ça.
Mais quand tu dis fouiller des trésors, ça signifie quoi? Par exemple, elle a des écritures incroyables, non? Alors, tu as dû passer des heures à lire
ouais.
ses écrits.
Ah bah ouais, j'ai travaillé donc aussi avec les photocopies des originaux qu'on m'a donné à l'art brut. Et je refaisais comme ça l'écriture parce qu'il y avait des trucs sur les photocopies, des traits qui étaient effacés, alors on ne distinguait plus vraiment ce que c'était que la lettre, donc on perdait le mot. Et tout à coup, les mots ressortaient et puis tu avais tout à coup des... Parce qu'Aloïse, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu le lis, tu as cette émotion très forte. Tu te dis, c'est de la pure poésie, c'est quelque chose qui m'a touchée, mais on a du mal à l'énoncer comme ça. Et puis, plus tu fouilles, plus ça devient concret et logique, et plus tu te retrouves dans l'histoire, plus ça devient vraiment une histoire.
Et puis, bon, cette femme, elle a été enfermée dans un asile psychiatrique d'abord, dans une...
Ouais, à Série, à l'hôpital de Série, oui.
Pendant 40 ans.
D'abord, elle a été à l'hôpital de Série, je crois qu'elle y est restée 3 ans. Ensuite, comme le diagnostic était schizophrénie, donc on l'a envoyé à la Rosière. Mais en fait, on envoyait à la Rosière les gens qu'on disait incurables. Mais c'était surtout probablement des gens dont la famille s'est petit à petit délaissée, quoi. C'est-à-dire Aloïse, au bout d'un certain temps, ses sœurs ne venaient plus. Et donc on l'a mis là-bas, à la Rosière.
Parce que personne ne venait plus la rechercher, donc on ne voilà. voulait pas la laisser.
Moi, je pense, seule, ouais, je pense que c'est ça. Mais en fait, elle est allée à la Rosière. Bon, c'était effectivement un asile. C'est l'ancien hôtel des bains de l'hôtel de la Rosière. L'hôtel. Mais je crois qu'au bout d'un moment, mais c'est ça sa grande force, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle s'est complètement libérée. Et elle était, je crois, relativement bien à la Rosière. Parce qu'elle faisait ce qu'elle avait envie de faire, c'est-à-dire dessiner, quoi.
D'ailleurs, tant par ses écrits que par ses dessins, elle a voulu faire un petit peu connaître le monde qu'elle vivait dans cette situation. Et toi, par ton spectacle, tu as décidé enfin de donner la parole à cette femme ouvertement devant tout le monde, elle qui a été enfermée si longtemps.
Ouais.
C'est ça. Fondamentalement, ton idée, c'est quoi? En faisant ce spectacle-là, en faisant parler pour tout le monde, Aloïse, alors qu'elle était le symbole de la femme enfermée pendant si longtemps.
Bah, tu sais, moi, je sais pas, mais je la fais déjà parler pour moi. Parce que pour moi, c'est déjà très fort. Et puis, c'est un texte, c'est des mots qui te permettent justement de te dire « Ah ouais, je vais chercher dans le sens de la liberté », tu vois. Parce que c'est ça l'objectif Et puis, alors je ne sais pas, ce n'est pas tellement d'avoir voulu sortir de l'obscur, quelqu'un qui d'ailleurs n'était pas obscur, parce que Aloïse est très connue. Non, c'est plutôt comme ça de pouvoir, avec ses mots et avec sa peinture, faire une tentative sur un chemin de la liberté et de la paix morale.
Qu'est-ce que tu veux dire par la paix morale?
Ben, la paix à l'intérieur de soi-même. Et puis avec ce qu'on vit, avec ce qu'on vit autour, quoi.
Bon, tu dis, elle était très connue, mais je ne suis pas si sûre que les gens savent vraiment qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qu'elle a voulu dire
non.
Par ses peintures.
Il y a des gens qui savent, et puis il y a des gens qui ne savent pas. Elle est connue à divers degrés. Mais il y a des gens qui savent que c'est une artiste suisse, voilà. C'est que c'est une artiste, que c'est une femme qui dessine. Bon, effectivement, ses écrits sont beaucoup moins connus. Hein. Mais sur sa peinture, on sait que c'est une artiste. On ne sait pas... Bon. Parce que même il y a d'autres peintres qui sont extrêmement connus, on les connaît comme ça, mais on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Bon, Aloïse, moi je crois que... Moi j'ai été étonnée à Paris de voir combien elle était connue. Elle est dans Larousse, Aloïse.
Oui, ouais. Mais bon, on dit, le peu qu'on connaît d'Aloïse aussi souvent, c'est qu'elle était folle. Hein, ça c'est ce qu'on a entendu dire. Alors bon, certains, visiblement il y a une grande controverse, certains disent d'elle elle est complètement sortie du réel, elle plane, elle est folle, et puis d'autres au contraire ont pris un parti complètement inverse, comme ben, Dubuffet qui a fait
oui,
ses œuvres.
Oui.
Toi, tu as fait quoi?
Ben moi j'ai pris le chemin de Dubuffet. Bon, c'est flagrant qu'elle n'était pas folle. Qu'elle n'était pas folle, ça c'est évident quand tu je pense quand tu écoutes même le texte. Ceci dit, sous le terme de folie, il se cache tellement de choses, tu vois, que c'est souvent un paravent quand on annonce comme ça ou quand on dit que cette personne est folle, c'est souvent un paravent que la personne qui le dit met entre cette personne et elle-même, parce que c'est vrai que les propos d'Aloïse, par exemple, ils t'entraînent dans une partie un petit peu obscure de ta tête ou de toi-même. Et il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller dans ces recoins obscurs. Voilà. C'est comme, parce qu'aussi, il y a une grande violence dans ces coins obscurs. Et on n'a souvent pas envie de déchaîner cette violence. Et je pense que c'est souvent pour ça qu'on dit que les gens sont fous. Enfin, Aloïse, en tout cas, je pense que c'est pour ça.
Toi, quand tu interprètes Aloïse, d'ailleurs, on sent très très fort cette violence par moments. En tout cas, quand on est sur son siège, il faut se cramponner sur la violence de l'expression, de ce qu'elle dit. Mais c'est toujours effectivement, on se dit, mais tu dois être sur la corde raide, en fait, quand tu interprètes sur la
folie. Mais oui, c'est tout à fait. Exactement.
La folie, ou
voilà,
si tu interprètes
tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des limites qui sont. Ouais, c'est ça, c'est sur un fil comme ça. Et je peux très bien déraper à certains moments, revenir. Il faut faire attention. Enfin, je dois faire attention à garder une très grande légèreté.
Mais quand tu dis, est-ce que tu as la sensation, au moment où tu entres sur scène, que tu te mets dans Aloïse? C'est une réelle identification, parce que j'ai trouvé que tu as une force.
Moi, tu sais, je ne sais pas si je m'identifie, parce que je l'interprète. Hein, j'interprète ces paroles. Mais c'est vrai que ça m'emmène, moi. Pendant toute la durée du spectacle, ça dure 1h20, ça m'emmène quelque part. Et à l'arrivée, je ne suis pas pareille qu'au départ. Et c'est, je ne sais pas si c'est de l'identification ou si je ne me prends pas pour Aloïse. Je ne pense pas. J'en sais rien, évidemment. Enfin, j'en sais rien, je ne crois pas. Mais c'est vrai que cette 1h20, ça me fait voyager, moi. Donc ça me fait arriver à un endroit où je ne sais plus très bien où je suis, en fait, à la fin.
Bon, on a beaucoup... Bon, Aloïse est exposée au musée d'art brut à Lausanne, donc on la situe comme artiste brute qui est censée être en dehors de tous les critères culturels
ouais,
officiels.
Oui, oui, oui. Et c'est vrai.
C'est vrai, tu penses?
Ah, oui, oui.
Parce qu'en
pense.
Même temps, elle, quand elle dit faites connaître mes œuvres, dit se montrer mes dessins, elle a une conscience qu'elle a peut-être un langage
oui, mais
artistique.
C'est... Ah là, les gens ben oui, comprendre. Non, mais attention, c'est que je ne pense pas que l'artistique et le culturel soient la même chose. C'est pour ça que je dis c'est pas culturel, Aloïse.
Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas les conventions artistiques que les gens, les artistes,
je crois qu'elle a essayé,
non brutes, utilisent?
Je crois qu'elle a volontairement essayé de les briser, ces conventions, justement. C'est que elle s'est volontairement exprimée en dehors des normes. C'est quelqu'un en rupture de société, et forcément de culturel, tu vois, en rupture de culturel. Et justement, c'est son art qui lui a permis de faire ça. Mais parce qu'elle n'est pas restée dans ses... Même, tu vois, au niveau de la langue, au niveau de l'écrit, comme ça. Aloïse, elle n'écrivait pas comme ça, comme nous, comme ça, de droite à gauche, et puis on, une ligne, une autre, etc. Non, il y avait plusieurs lignes superposées. Il y avait des choses écrites en diagonale. Parce que, tout à coup, parce que ça n'a pas d'importance, je veux dire...
C'est l'expression qui compte, la convention.
Et puis, c'est-à-dire qu'elle s'est libérée des conventions physiques, même physiques. Et elle s'est libérée de la... Enfin, comme elle, je veux dire, de la plus grande oppression qui existe, une des plus grandes, c'est l'hôpital. En réussissant cette libération, elle a aussi passé le cap dans son travail artistique de se libérer de toutes les contingences matérielles, culturelles. Mais malgré tout, Aloïse, c'est quelqu'un qui avait vraiment quelque chose à dire de très important au monde, justement. Tout son discours antimilitariste, pacifiste et humanitaire, c'était vraiment ça qui l'a fait tenir toute sa vie. Et quand elle disait prenez mes dessins, vous les emporterez à ma place dans le monde, je crois que ce qu'on a emporté à sa place, ce qu'on doit emporter à sa place dans le monde, ce sont ces discours pacifistes. Et humanitaire. C'est ça aussi cette grande gaieté et cette grande libération et liberté. Je crois que c'est ça qu'elle transmettait. C'était pas l'œuvre, le papier. C'était ce qu'elle avait mis dans le papier ou sur le papier, que ce soit de l'écriture ou du dessin.
Tu penses que si elle n'avait pas trouvé ce moyen d'exprimer ce qu'elle ressentait, elle serait devenue réellement folle?
Oh, je crois qu'elle serait morte. Vraiment.
Donc c'est vraiment un refus.
Elle serait morte de douleur.
Pour supporter cette situation.
Parce que, tu sais, c'est drôle. L'autre fois, je pensais, en fait, les gens disent c'est de la folie. Mais c'est pas de la folie, c'est de la douleur.
Tu le fais bien ressentir, d'ailleurs.
Ouais,
la façon d'interpréter, on le sent très, très fort, d'ailleurs.
C'est de la douleur à une certaine époque, c'est-à-dire pendant tout son internement à Série, et encore quelques années après, les 10 premières années où, justement, elle n'avait pas le droit de rien faire. Elle le dit, enfin, elle est morte, elle était même plus Aloïse, elle était Lulu. Bon, c'était... Mais après, c'est complètement reconstruit. Mais toute cette période a été une période de grande douleur et pas une période de folie.
Où elle se sentait anéantie et les gens l'avaient rayée de la carte.
En bah, fait. Complètement.
Et elle s'est reconstruite, elle, petit à petit, par ce dessin.
Ah ouais, par sa force intérieure, cette espèce de. Qui s'est traduit par ses dessins et puis ses écrits, mais cette espèce de... Il y a une grande volonté de parler chez Aloïse, je trouve, hein, et d'exprimer quelque chose de très, très important, mais pour tout le monde, même à notre époque. Quand tu bon, elle a écrit, elle est morte en 2004, mais ça n'a pas... On dirait qu'elle est encore... Elle est d'aujourd'hui.
Juste avant le spectacle, j'ai rencontré Madame Jacqueline Porret-Forel, qui était médecin à La Rosière lorsqu'Aloïse y était. C'est elle qui, comme je vous l'ai dit au tout début, s'est très vite beaucoup intéressée au dessin d'Aloïse et va lui donner le papier et les crayons de couleur pour s'exprimer. Je lui ai demandé qu'est-ce qui lui a donné envie d'encourager Aloïse à dessiner.
Je ne l'ai même pas encouragée, au fond, j'ai pris contact avec elle, et puis tout à fait au début, on n'a pas eu un très bon contact, et après, on a eu un contact, au fond, très amical et assez profond. Mais au fond, je ne l'ai pas vraiment encouragée, je lui ai donné des crayons, des cahiers, etc. Mais c'était pas du tout l'impression que c'était thérapeutique.
C'était pas thérapeutique, vous avez l'impression.
En réalité, ça l'était. Voilà. Ça l'était, mais je ne l'ai pas fait dans ce but-là. Je l'ai fait au fond uniquement parce qu'elle avait envie d'avoir des crayons et des dessins. Et du papier, mais enfin, elle...
Elle le réclamait, elle, pour elle, c'était un besoin.
C'était un besoin extraordinaire. Parce qu'au commencement, par exemple, elle, quand on a retrouvé des choses dans ses écrits, elle disait, je cherche des papiers dans les ordures pour griffonner au cabinet. Donc, ça veut dire qu'elle avait un besoin terrible de pouvoir dessiner sur n'importe quoi. Du reste, ses plus beaux dessins sont les dessins qu'elle a fait sur des papiers les plus froissés, les plus usés, les plus déchirés. C'est des dessins extraordinaires, on dirait presque que c'est fait sur soi. Enfin, c'est une matière extraordinairement précieuse.
C'était un peu la survie pour elle, donc, ouais. Ce dessin.
Ah oui, ça a été... c'est-à-dire qu'elle a recréé tout un monde. Elle a créé un monde parce qu'elle avait l'impression qu'elle était morte au monde, complètement morte, qu'en plus, elle était comme un... Elle était en même temps comme dans un couvent, enfin, qu'elle était... Et alors qu'elle était vraiment tout à fait exclue de la vie, et alors elle a dû refaire complètement le monde. Et alors c'est par la peinture qu'elle l'a fait. Elle a aussi beaucoup écrit, elle a fait de très beaux écrits du reste.
Et c'est vous qui avez recueilli tous ces dessins finalement?
Non, pas forcément, j'allais dire que j'en ai recueilli beaucoup, elle les donnait à qui voulait. Alors, d'abord, le professeur Steck, il les a recueillis. Il y a toute une époque dont je n'ai pas, parce que le professeur Steck les recueillait, etc. Une époque magnifique, du reste, qui était dans les premières années. Il a fait jusque... Moi, je l'ai connu en 41. Alors, j'ai des dessins depuis 41, mais elle en donnait à tout le monde. Elle en a donné au pasteur de la Rosière. Elle en a donné, d'après ce que m'a dit une des infirmières, je pense 200 ou 300. Il n'en avait pas gardé un seul. Comme c'était des dessins de fous, alors il les jetait.
Et aujourd'hui, moi, il se mord les doigts, j'imagine.
Je crois qu'il se mord les doigts, oui. Moi, je ne le connais pas. Je lui ai téléphoné une fois pour savoir si par hasard il arrive. Il me dit, si j'avais su.
Mais
enfin,
il s'était... Mais vous avez l'impression qu'il disait ça, il dit ça en disant, si j'avais su à cause des œuvres d'art que ça représente aujourd'hui, ou bien par rapport à ce que c'est significatif de ce qui se passait dans la tête d'Aloïse à ce moment-là.
Non, je crois que ça n'intéressait pas tellement ce qui se passait dans la tête d'Aloïse. Tandis que le curé, alors oui, le curé aimait beaucoup et Aloïse et ses dessins. Le curé de là-bas.
Dubuffet, qui a ensuite réuni ses œuvres au musée d'art brut à Lausanne, a prétendu qu'elle n'était pas folle et qu'en fait elle avait parfaitement surmonté, si à un moment donné elle avait été mal, elle avait réussi à surmonter ce mal. Est-ce que vous êtes de cet avis?
C'est-à-dire que je suis d'avis qu'elle a été malade. Elle a été certainement malade, elle a fait certainement une schizophrénie, mais je crois qu'elle s'est guérie, en tout cas d'une façon clinique, disons, tout s'est calmé. Grâce justement au fait qu'elle dessinait.
Et comment alors pouvez-vous comprendre qu'on les gardait à la Rosière jusqu'à la fin de ce jour?
Parce qu'on savait pas très bien où la mettre. Elle avait des sœurs mais qui ont disparu. Elle avait une nièce mais qui vivait tout à fait ailleurs. Et elle était plus ou moins seule au monde. Sa famille à un moment donné ne s'en est plus occupée justement parce que sa nièce qui est très bien elle n'était pas là. Et que ses filles, que ses sœurs se sont tout à fait désintéressées d'elle.
Et ça alors, justifie un internement pour le restant de ses jours. Elle n'aurait pas pu elle-même s'occuper d'elle-même.
Elle n'aurait en tout cas pas pu s'occuper d'elle-même. Et en tout cas, et par exemple, une fois, moi je l'ai invitée à déjeuner parce qu'il y a eu une exposition en 63 à Lausanne, faite par les femmes peintres et qui lui avait donné une salle ou deux. Et alors je l'ai emmenée voir son exposition, enfin en dehors des heures. Et puis, elle est venue déjeuner ensuite à la maison avec son infirmière. Elle avait une infirmière qu'elle aimait beaucoup. Elle était très mal à l'aise. Elle se sentait au fond en sécurité à la Rosière. C'est ça.
Mais elle était déjà vieille, non?
Oui, bien sûr. Non, ça a été comme ça, disons. Quand elle est entrée, elle était certainement dérangée. En cours d'hospitalisation, on a vraiment pu observer une véritable schizophrénie. Et puis, tout s'est, au fond, calmé, tranquillisé. Et elle vivait, au fond, à la Rosière comme elle aurait vécu dans une pension. Ce n'était pas du tout des internements comme c'est maintenant. C'est-à-dire qu'elle était complètement libre. Elle faisait ce qu'elle voulait. C'est elle qui demandait à dessiner, à repasser, parce qu'elle repassait très, très bien. Elle avait du reste fait un apprentissage de ce que j'ai appris récemment, un apprentissage de couturière. Elle devait être une très bonne couturière. Et puis elle dessinait quand elle voulait, comme elle voulait, on lui fichait complètement la paix. Elle était toujours, moi je la trouvais, on était toujours, il y avait une grande terrasse couverte où elle dessinait. Elle était très contente, elle était très aimée des autres infirmières. Elle était évidemment très réservée, renfermée. Mais elle n'était pas du tout malheureuse. Après, elle était très malheureuse au début de sa maladie, oui. Quand elle était vraiment, quand elle était au début de son hospitalisation, où elle croyait qu'elle était morte, qu'elle n'existait plus, etc. C'est un moment affreusement angoissant, j'entends, pour quand tu es schizophrène. Mais quand les choses sont calmées, elle était au fond, elle se sentait chez elle, elle était assez comme une reine au fond.
Mais elle a eu conscience qu'elle avait été internée contre son gré.
Vous savez, c'est très dit, quand on voit son dossier, elle dit on est très bien. Au commencement, elle dit on est très bien soigné, les gens sont très gentils, etc. Mais quand on voit les écrits qu'elle a fait en même temps, on voit qu'elle était abominablement malheureuse au commencement. Et puis.